Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Propulsé par mademoiselle.com.
Ah ouais. Oh, ça swing.
Bonjour tout le monde.
Bonjour, bonjour.
Bienvenue dans un nouvel épisode de Sors le Popcorn, votre podcast ciné-série préféré, bien sûr.
Oui.
C'est le seul que vous écoutez, d'ailleurs.
J'espère.
Eh bien, écoutez, aujourd'hui, je suis en présence de Mimi.
Bonjour. Oui. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait Sors le Popcorn, oui, car je n'avais pas vu l'intégralité des contenus dont vous avez parlé précédemment. Mais là, ça y est, je suis à jour, donc je peux faire un nouvel épisode. Je suis contente.
Oui. Ouais, ça va être trop bien. Et donc, du coup, pour vous tenir un petit peu au courant, comme je vous avais dit la dernière fois, le podcast va avoir des petits changements. Donc, on garde cette formule d'abord sans spoiler, puis avec spoiler. Mais on va parler plutôt d'un film par mois et d'une série par mois en fonction de ce qui nous inspire ou non. Donc voilà.
Il y a des mois, il va y avoir rien du tout qui sort ni au cinéma ni en série télé dans le monde entier. On sera là, bah, parlons du cinquième élément et on fera un épisode sur le cinquième élément.
Exactement.
C'est mon film préféré. Je suis au premier degré, je fais un sort le popcorn sur le cinquième élément.
Ok, ça roule. Eh bien écoutez, c'est noté dans mon programme du coup. voilà, donc, et la nouvelle date de sortie de ce podcast sera le vendredi.
Oui.
Donc attendez du sort le popcorn le vendredi. Merci beaucoup à tous d'avoir répondu au sondage que j'ai fait. Vous avez été beaucoup à répondre et donc franchement ça fait plaisir. Aussi ce qu'on va faire c'est que maintenant on va garder nos recos qu'on faisait au début du podcast pour Laisse-moi kiffer qui est le podcast Feel Good voilà, de Mademoiselle et donc on fait beaucoup de recos films et séries. Donc voilà, si vous écoutez pas encore Laisse-moi kiffer, je vous encourage vivement à aller écouter, c'est très marrant.
Qu'attendez-vous ? On est genre à l'épisode 82 Alors, ne prenez pas peur, même si je vous conseille d'écouter tous les épisodes. Donc, c'est long. Mais tout est bien, ce sera très rigolo.
Voilà, c'est ça. Et c'est intemporel, donc c'est top. Et donc, voilà, comme ça, on se concentre à fond sur une série ou un film, selon l'épisode qu'on fait. Et aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle série Netflix sortie le 7 février, donc sur la plateforme, qui s'appelle Lock and Key.
Lock and Key, yeah.
Voilà. Okay. Alors vas-y, c'est parti.
C'est l'histoire de la famille Locke. Notez qu'en anglais, Locke veut dire serrure. C'est important pour
Attends,
la suite.
Quoi ?
Eh oui. Donc la famille Locke, c'est la mère Nina et ses trois enfants, Tyler qui doit avoir 16 piges, Kinsey qui en a 15 et Bodie qui est un peu plus jeune, qui doit avoir 12 ans. Et malheureusement, il y avait un papa, Randall Locke, qui est décédé. Il s'est fait assassiner dans des circonstances mystérieuses par un jeune homme de l'âge de Tyler. Et du coup, bah, la famille est en deuil et ils décident de partir de Seattle où ils habitaient pour se reconstruire parce qu'ils se disent qu'ils n'arriveront pas à se reconstruire là-bas. Et ils emménagent dans la maison de famille du père où il a grandi, mais à laquelle, enfin, où il ne revenait plus jamais. Donc apparemment, il parlait jamais de cette partie de sa vie. C'était un peu mystérieux. Mais comme la maison, c'est une bête de manoir, sa race, la famille, elle est là, bah, en fait, elle est gratuite, donc on va aller l'habiter. Tant pis s'il en parlait
merci,
pas,
mais
ça
oui,
a l'air
merci.
Sympa. Oui. Du coup, ils emménagent là, c'est dans une petite ville qui s'appelle Madison.
Madison.
Ouais, je sais pas comment. Je suis pas aussi forte en accent que toi. Donc tout le monde s'installe, va au lycée, va au collège, fait sa petite vie. La daronne, son boulot, c'est de réparer des vieilles maisons et tout, donc elle est dans son élément puisque ça reste une vieille baraque avec pas mal de trucs à retaper. Mais il se trouve que la maison cache un secret. Donc la famille Locke emménage dans la maison qui s'appelle Key House, la maison des clés en anglais, ça tombe quand même très bien. Et il se trouve que Bodie parle à une entité mystérieuse qui prend le corps d'une jeune femme qui vit dans un puits et qui lui dit « Il y a dans la maison des clés magiques, tu les entendras murmurer, trouve les clés et ramène-les-moi ». Comme Bodie est très ouvert d'esprit, il entend des murmures dans cette maison qui a quand même l'air d'un manoir salement hanté. Il suit les murmures et il trouve effectivement des clés qui ont chacune un pouvoir. Il y en a une qui permet d'aller partout dans le monde en la tournant dans une serrure. Il y en a une qui permet d'aller dans sa propre tête. Il y en a une qui permet de changer de visage. Enfin, il y en a plein. Et du coup, ça va être l'intrigue, c'est... Que veulent dire ces clés ? Quel est le mystère de Key House ? Qui est cette entité, donc Echo, qui vit dans un dans un puits. Qu'est-ce qu'elle veut et qu'est-ce qui se passe avec cette maison surnaturelle finalement.
Qu'est-ce que tu résumes bien, Mimi.
Merci. Pendant ce temps, Tyler et Kinsey vont finir par être intégrés dans tout ce bail, bien sûr.
Oui, bien sûr.
Sinon, ils seraient là pour rien.
Voilà. Et puis il y a aussi toute cette histoire où ils vont en parallèle au lycée, donc on a aussi toutes leurs histoires avec leurs nouveaux amis, enfin voilà.
Les problèmes, les petites dragues, les soirées à 14h visiblement, mais avec beaucoup de vodka, plein de choses.
Donc voilà, donc c'est la nouvelle série qu'on a regardée là, depuis le 7 février. Et Mimi, je voulais te demander, t'attendais quoi de cette série ?
Alors, il faut savoir que Lock and Key s'est basé sur des comics par Joe Hill. Joe Hill qui est le nom de plume du fils de Stephen King.
Oui.
Et donc moi, étant une grosse nerd de Stephen King, je n'ai pas lu Lock and Key parce que je n'ai pas acheté les comics, mais j'étais très curieuse. C'était sur ma liste de trucs à lire un jour.
Mais en voyant... Ouais, il y a un article sur Mademoiselle dont je mettrai le lien dans les notes de ce podcast.
Avec Pénélope Bagieu, qui vante les mérites de Lock and Key quand même. On peut name dropper, elle est talentueuse. Et donc j'avais pas lu les comics, mais j'étais quand même très curieuse de découvrir cette série parce que déjà c'est basé sur un truc écrit par le fils de Stephen King qui écrit bien, et parce que le pitch m'intriguait. Moi j'aime bien les trucs surnaturels, ça avait pas l'air de faire trop peur, ce qui est un vrai critère pour moi parce que je suis une grosse flippette, notamment qu'Alindy m'avait vanté les mérites de Haunting of Hill House sur Netflix que je suis incapable de regarder. Donc je me suis dit ah là ça a l'air un peu plus abordable, et du coup j'ai lancé ça, j'ai bingé ça proprement comme prévu quoi.
Alors que moi j'avais eu j'ai pas lu les comics, donc mais j'avais vachement d'écho comme quoi c'était ultra flippant les comics. Du coup, j'avais limite peur de m'y engager. Et mais voilà, après moi pareil, j'aime bien tous ces univers un peu fantastiques et tout. Donc c'est vrai que j'avais un peu hâte de m'y mettre, et en fait finalement ce que tu disais, c'est que ça fait pas peur, enfin la série fait pas du tout peur, et parce que donc Joe Hill a travaillé avec Netflix sur l'adaptation. Et donc déjà, par exemple, la ville s'appelle Matheson et pas Lovecraft, comme dans les comics. Parce qu'en fait, donc c'était un hommage à la base à l'auteur de romans d'horreur, Lovecraft. Sauf qu'il y a eu des bails en mode... est-ce que ce serait pas raciste, son œuvre de Lovecraft ?
Ah Lovecraft, gros raciste, hein. Alors, ok, faites une pause dans le podcast, googlez nom du chat de Lovecraft, vous allez voir.
Ok, et... je viens d'apprendre le nom du chat de Lovecraft. Allez tout de suite googler, c'est pas rigolo rigolo. Du coup, ils ont transformé le nom de la ville en Matheson, qui est un écrivain et scénariste américain spécialisé en épouvante et en science-fiction, qui est mort en 2013. Donc c'est à lui que voulait rendre hommage Joe Hill. Et donc voilà, il a travaillé avec Netflix pas mal sur cette adaptation, j'ai l'impression, pour en faire quelque chose de moins flippant finalement et de plus teen. Mais moi j'ai trouvé ça limite presque enfantin en fait.
Enfin... oui, il y a un côté qu'Alindy le comparait dans sa critique écrite sur Mademoiselle au monde de Narnia, et il y a un vrai côté c'est des enfants, enfin des pré-ados ados qui découvrent une potentialité surnaturelle mais qui est pas forcément hostile et flippante. Et effectivement, c'est pas comme si la série essayait de faire peur et n'y arrivait pas. Elle n'est jamais dans une démarche de te faire peur. Il y a très peu de, il y a quasiment pas de jumpscare, et quand il y en a, ils sont très gentillés.
Ouais.
Et c'est plus c'est plus intriguant qu'autre chose. Et du coup, c'est effectivement quasiment adapté à tous les âges, hein, j'ai envie de dire. Peut-être pas quand t'as 5 piges, mais clairement, une enfant de 10 ans, je pense qu'elle peut regarder et même vraiment s'identifier à Bodhi, qui est donc l'enfant par qui le surnaturel arrive dans l'intrigue, et y trouver beaucoup de plaisir.
Mmh. Ouais, c'est ça. En fait, il y a plusieurs portes pour y rentrer. T'as vraiment l'enfant, puis t'as aussi les ados et t'as aussi la mère. Donc finalement, j'ai l'impression que ça se veut comme une série un peu familiale. Mais du coup, à qui tu la recommanderais ? À quel genre de personne tu la recommanderais, Mimi ? Cette série.
Alors clairement, je pense que je la recommanderais pas aux fans d'horreur, parce que je pense qu'il y a potentiellement du coup une forme de déception, surtout, alors je sais pas si les fans du comics sont contents de l'adaptation. Moi je trouve ça toujours très intriguant quand un créateur reprend son œuvre d'une autre façon. Donc voilà, là c'est Joe Hill qui je pense que c'est important de le dire, apparemment les comics sont vraiment plus gore et vraiment plus flippants. Du coup, si vous avez regardé la série et que vous vous dites « j'ai pas envie d'attendre la saison 2, je vais lire les comics », ça va être une autre limonade, clairement. mais je suis toujours curieuse de voir des auteurs adapter leur œuvre pour un autre public. Donc je pense que là, il l'a clairement adapté pour un public plus familial, comme tu dis. Donc je la recommanderais aux gens qui aiment... Je pense que si t'aimes bien Stranger Things, potentiellement t'aimes bien Lock and Key, parce que t'as des éléments qui sont similaires. Des héros qui sont pas des adultes, qui sont mineurs. T'as du surnaturel qui arrive dans une petite ville tranquille. T'as des... Moi, j'aime... Ce qui m'a plu, c'est le côté secret de famille, où en fait, au fil des épisodes, il y a des flashbacks sur les souvenirs des personnages avec le père qui est décédé et qui lui, bah, du coup, a grandi dans cette maison et potentiellement savait qu'il y avait des clés, etc. Et moi, c'est vraiment l'aspect, ok, la grande question à laquelle je voulais trouver une réponse, c'est pourquoi il parlait jamais de son enfance là-bas, qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait qu'il veut jamais y revenir. Et on rencontre aussi son frère, donc le tonton des enfants, qui est lui aussi adulte et qui, lui, alors il va dans la maison, il y a pas de souci, il les aide à s'installer, mais on sent que voilà, il veut pas trop en parler, il se souvient pas trop de son enfance. Donc moi, c'est ça qui m'a intriguée. Au final, il y a des thèmes qui sont, en fait, c'est assez varié les thèmes. Il y a l'aspect mystère surnaturel, il y a l'aspect secret de famille, il y a quand même une grosse thématique autour du deuil qui peut être intéressante à creuser, surtout si on le regarde en famille. Je me dis que peut-être avec un public un peu plus jeune, ça peut ouvrir des discussions autour du deuil, et le fait de perdre un parent en plus de façon brutale, c'est pas une thématique qui est très facile à aborder, donc ça peut aider. Il y a un côté un peu teen avec les histoires au lycée, mais ouais, qui prend pas non plus une place prépondérante, quoi. Donc voilà, il y a pas mal de trucs. Donc je dirais, si vous avez aimé Stranger Things, il y a pas l'aspect 80s,
il y a pas l'aspect 80s. Non, mais je trouve qu'il y a un aspect hyper 90s. Enfin, en fait, moi, j'ai commencé à regarder et j'étais là, oh là, j'ai l'impression de voir un dessin animé d'enfance, tu vois. Enfin, une série d'enfance.
Ça a un côté un peu Fais-moi peur, chair de poule, ouais. Tu avec vois, ces gamins qui vont en exploration. Avec... Ouais. Les adultes se demandent jamais trop ce qu'ils foutent de leur journée, tu vois.
C'est ça, l'enfant est complètement livré à lui-même. Enfin.
Ah bah, Bodhi, on le voit pas une seule fois aller en cours, hein, clairement. Cet enfant ne connaîtra pas ses tables de multiplication, c'est pas très grave. Non, cela dit, je veux pas être mauvaise langue, il me semble qu'ils expliquent au début que pour lui, la rentrée, c'est plus tard, du coup, c'est pour ça. Voilà. Je veux pas qu'on vienne me dire dans les commentaires, ils expliquent quand même. J'ai regardé, ça va, j'ai suivi.
Mais il y a une esthétique peut-être moins travaillée que Stranger Things, qui est vraiment en mode... beaucoup de références, même si là aussi il y a énormément de références à plein justement de shows et de films des années 90, je trouve. Plus c'est moins ultra référencé que Stranger Things, ça m'a vraiment rappelé le monde de Narnia, enfin ça m'a fait beaucoup retourner en enfance. Donc voilà, faut avoir envie de ça aussi, parce que c'est pas une série que tu vas regarder.
Oui, si on la regarde comme une série très adulte, forcément, on risque d'être déçu. Ouais. Et on en parlera plus tard, mais c'est ce qui m'a un peu déçu aussi, c'est que j'ai du mal, à mon grand âge, n'est-ce pas ? J'ai de plus en plus de mal à m'identifier à des personnages adolescents, tout simplement. Mmh. Et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand public comme série. Je m'attendais à un truc un peu plus deep, un peu plus sombre, surtout vu les thématiques abordées. Et au final... Non seulement ça fait pas peur, mais en plus, voilà, ça reste léger, sans être bête, mais ça se regarde tranquillement avec du pop-corn. Enfin, c'est très bingeable comme série, et en même temps, on peut pas lui reprocher un truc, c'est que la plupart des questions qu'on se pose au début de la saison sont trouvent une réponse dans la saison, ou après, il y aura une saison 2, donc on imagine qu'il y a d'autres réponses qui vont être apportées à ce moment-là. Mais voilà, c'est pas une série qui fait traîner pour faire traîner, quoi.
Ouais, mais après... C'est aussi ce qui est un peu frustrant, parce que moi j'aime bien me poser des questions et j'aimais bien les séries, notamment The OA, tu vois. Bon, voilà, c'est un peu poussé à l'extrême où tu comprends vraiment rien. Et,
c'est compliqué.
Et moi j'ai adoré Lost, j'ai adoré aussi The Leftovers. Donc c'est vraiment ma cam. Donc là, en fait, de voir presque en fait une question posée en début d'épisode, répondue à la fin d'épisode, et chaque épisode pose une nouvelle question. C'est un peu rébarbatif pour moi comme dynamique, et je trouve que en fait c'est à travers ce point-là qu'on va aborder cette série, c'est que elle a énormément de potentiel et pourtant on a l'impression qu'elle passe un petit peu à côté parce qu'elle s'égare un peu. Après il y a beaucoup de séries teen aussi en ce moment sur Netflix, mais qui pareil parfois s'égare, donc t'as 13 Reasons Why et Stranger Things. Et pareil, Stranger Things, dans la dernière saison, ça s'égare un peu, enfin, ça part par plein de directions différentes. Et donc, il y a plein de séries Netflix qui sont ultra bien, et comme Lock and Key, mais peut-être on voudrait essayer de voir comment faire pour que ça s'égare pas en saison 2, parce qu'en vrai, la saison 2 de Lock and Key a déjà été annoncée, enfin, elle est déjà en écriture ou en tournage, il me semble. Donc voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Mimi ? Ça te paraît bien comme programme ?
Ça me paraît être un super thème, Alix. Bravo, Alix Martino.
Eh ben, on peut peut-être passer au spoiler, du coup.
Ouais.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra.
Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On lance l'alerte spoiler.
Allez.
Allez, donc on va spoiler toute la saison 1. Donc, à vos risques et périls.
Donc voilà, pour moi, en fait, mais on en a déjà parlé en plus, c'est une série qui veut trop de choses à la fois, tu vois. C'est... En fait, je pense que ça veut s'adresser à un trop grand public. Alors, je me suis dit, bon, bah, ce qui marche en ce moment, c'est les univers un peu... Enfin, en fait, ça marche depuis des années, mais des univers à la Harry Potter, tu sais, où tu changes vraiment de... Bah, un truc magique qui se passe, et il y a certaines personnes qui sont concernées par ce truc magique, et du coup, il faut être intégré dans ce monde-là. Donc, t'as Narnia, t'as Harry Potter, t'as...
Bah, même Twilight, au final,
Twilight.
Parce que les vampires sont parmi nous, quoi.
Ouais, c'est ça. Et donc, ça marche vraiment bien pour les ados, et j'ai l'impression que, voilà, Lock and Key, ça a voulu s'étendre à plein de... Enfin, vraiment, un public super large, familial, en fait. Du coup, ça s'égare un petit peu. Et donc, on va parler d'abord des personnages qui sont en fait... Moi, je sais pas toi, mais j'ai eu du mal vraiment à m'attacher à eux parce qu'ils étaient... En fait, je sais pas si c'était parce qu'il y avait trop de personnages et trop d'histoires différentes, trop d'enfants, tu vois, parce qu'il y a quand même 3 enfants, plus la mère, qui ont vraiment des intrigues propres à eux-mêmes. Mmh. Donc je sais pas si c'est parce qu'il y en avait trop ou si c'est parce que la série a pas pris assez le temps de s'épandre dessus. Enfin voilà, j'ai pas trouvé que c'était ultra profond comme intrigue.
Alors en fait, moi j'ai pas eu de problème pour m'attacher à eux au début. C'est-à-dire que je me souviens quand j'ai regardé les 2 premiers épisodes d'un coup. Et j'ai fait genre 2 épisodes, 3 épisodes, 2 épisodes. Et full disclosure, j'ai arrêté à l'épisode 7, à la fin de l'épisode 7.
Là.
Mais je sais comment ça finit et je vous dirai plus tard pourquoi j'ai arrêté à la fin de l'épisode 7. Et en fait, je me souviens que le premier truc que j'ai dit, c'est « Ah, c'est cool, les enfants, ils sont cool, les ados, ils jouent bien. » Enfin, les acteurs et actrices, ils jouent bien parce que le risque, quand t'as des héros adolescents, c'est d'avoir des acteurs et actrices un peu trop verts qui surjouent, enfin... En vrai, tu regardes les premiers Harry Potter, ça joue vraiment comme des sacs à patates, hein, mais bon...
Je te laisserai pas dire du mal d'Harry Potter, Mimi.
Mais surtout quand, en face, t'as genre Alan Rickman, tu vois, t'es là,
bah
ok,
ouais.
Daniel Radcliffe, on va dégrossir tout ça. Mais voilà, c'est la vie, et c'est le risque quand on a des héros enfants et adolescents. Et là, je les ai trouvés réalistes, je les ai trouvés pas over the top. Je trouvais que les acteurs et actrices étaient charismatiques. Bodhi, je l'ai trouvé adorable. Enfin, j'avais grave envie de jouer aux petits chevaux avec lui. Kinsey, j'étais là, oui, bon... un peu cliché de l'ado,
ouais,
un peu renfermé en opposition
peu
à sa daronne. Et en même temps, à 15 ans, j'étais une ado renfermée en opposition à ma daronne, donc voilà. Et Tyler, bah voilà, un peu taiseux, mais en fait, j'ai trouvé que leur aspect... En fait, tant qu'ils touchent pas au surnaturel, je me suis attachée à eux. Notamment, Tyler, ça m'a beaucoup ému sa dynamique dans son deuil, où il se sent coupable de la mort de son père, parce que donc le gamin qui a tué son père, là, Sam... Tyler lui avait dit en passant « Ah bah si tu décides de tuer ton daron qui te cogne dessus, tue mon daron sur la route parce qu'il s'était embrouillé avec son père. » Et du coup, il est persuadé que Sam, il est venu tuer son père parce qu'il lui a dit ça. Et en fait, cette souffrance intérieure dont il parle à personne, ça m'a beaucoup ému. Enfin, j'ai trouvé ça réaliste parce que c'est clairement le genre de truc que tu peux te dire. Des fois, tu lâches une phrase en l'air parce que t'es énervé, surtout à l'adolescence où t'es là « Je te déteste, je suis même pas ton fils, de toute façon, je vais fuguer. » Et en fait, bah, si jamais le dernier truc que tu dis à ton daron, c'est ça, tu t'en voudras toute ta vie. Donc ça, j'avais trouvé ça bien. Et bah, Kinsey, en fait, le fait qu'elle tue sa peur dès qu'elle peut, j'ai trouvé ça intéressant parce que bah déjà, c'est la seule meuf et elle tue sa peur, ce qui est intéressant un petit peu dans un prisme féministe. Mmh. Et du coup, ça donne une raison au reste de ses actions qui sont très, bah, très spontanées, hein, clairement, très random. Et en fait, c'est du coup, le scénario explique pourquoi elle agit de façon irrationnelle et très tête brûlée, bah, parce qu'elle a tué sa peur et qu'elle a plus ce filtre qui l'empêche d'agir, du coup. Donc, j'ai pas eu de problème à m'attacher à eux, mais... Je n'en peux plus des scénarios qui fonctionnent sur le fait que les gens ne communiquent pas entre eux et qu'ils sont un petit peu cons.
Ah, c'est vrai que t'as un problème avec ça.
Ah, j'ai un problème avec ça. Je sais plus qu'est-ce que c'était que j'avais arrêté de regarder aussi pour cette raison, mais c'est un truc qui existe depuis que la fiction est fiction. Mais pour moi, le signe d'un scénario bif-bof, c'est que si les personnages étaient malins, il n'y aurait pas d'histoire. Et en fait, là, on est sur des gens qui ne sont pas censés être plus bêtes qu'un autre et qui ne communiquent pas, qui ont un sens des priorités très clairement pété. parce qu'ils ont des clés magiques avec un ennemi qui les chasse et une daronne amnésique dès qu'il se passe un truc magique et qu'ils sont là. Ouais, mais j'ai hockey en fait, là, j'ai mon match de hockey.
Donc, ouais, c'est ça.
J'ai mis ma brio et je suis là. Et d'un autre côté, bon, ok, peut-être que s'il t'arrivait des trucs surnaturels, tu serais en train de vriller et tu serais là. Non, mais je vais aller en cours parce qu'au moins c'est normal. Mais enfin, je trouve qu'ils ont des décisions qui sont vraiment débiles. Et donc, pourquoi j'ai arrêté à la fin de l'épisode 7, j'étais prête à excuser beaucoup de décisions que je jugeais bêtes par le fait que c'est des gens confrontés au surnaturel pour la première fois. Et du coup, on peut pas imaginer comment on réagirait, tu vois. Évidemment, on est là, non, mais moi, je ferais trop pas ça. En vrai, on serait en boule dans un coin en train de se taper la tête contre un mur si on pouvait genre rentrer dans notre propre tête. Enfin, c'est hyper flippant. Mais dans l'épisode 7, donc c'est l'épisode où Sam sort de l'asile, sort de la prison grâce à Echo qui lui donne la clé du feu là.
Ouais.
Et il vient dans la maison, il s'infiltre par effraction, il les menace, il les attache et il leur demande de lui donner la clé, la head key, pour qu'il la donne à Echo pour qu'elle puisse aller dans la tête de la meuf qui est à l'asile.
C'est ça.
Et en fait, du coup, là, la menace est très, très, très concrète. C'est un mec avec un flingue et ils sont quatre. Et ils ont tellement d'occasions d'attraper le flingue, de le... Enfin, il y a des ellipses, genre, le gars, il les ligote tous les trois, et je suis là, vous êtes trois, c'est-à-dire, comment ça... Il y en a pas un qui... Ok. La gamine, elle est censée avoir effacé sa peur, donc, en fait, elle est pas censée avoir peur d'agir, mais très clairement, elle a peur de lui, ou peur qu'il fasse du mal à sa famille. Du coup, elle fait rien. Enfin, j'étais là, ok, là, on n'est plus dans la cohérence que la série a construit, qui m'a permis de suspendre ma crédulité pendant 6 épisodes, parce que là, c'est un mec avec un flingue, et en fait... Vous mettez beaucoup trop longtemps à vous débarrasser de lui et c'est même pas eux qui le tuent, c'est Echo. Mm-hmm. C'est même pas eux qui se débarrassent de lui, quoi. Donc j'étais vraiment, j'ai arrêté. Ça m'a, je me suis dit, est-ce que j'ai envie d'avoir encore 3 heures de ça? Non, pas vraiment.
Mais après, tu vois, moi ça m'a pas. Enfin, moi je les ai trouvés, j'ai trouvé leur réaction hyper cliché et vraiment ce qu'on attend de d'une série teen. Enfin, vraiment, j'ai pas été surprise un seul moment, tu vois. Mais pour le coup, tu vois, je me mets dans leur situation. Un mec avec un gun, je sais pas si je vais lui prendre, tu vois.
Ouais, mais je sais, en fait, enfin, tu vois, genre, Kinsey, elle l'emmène là où elle a enterré sa peur pour prendre un couteau. Et en fait, elle prend le couteau et elle se retourne. Et le gars, il est là-bas. C'était ça ton plan, c'était prendre un couteau. Et en fait, bah, son plan, c'était de libérer sa peur, ce qui est déjà bon. On sait pas si le truc il est vivant ou pas, enfin c'est pas comme si elle maîtrisait le délire, mais ok, tu vois. Et sa peur lui saute dessus, il lâche le flingue, elle récupère pas le flingue, elle se bat avec Body, et en fait, oui, étape par étape, tu peux te dire, bah c'est une gamine de 15 ans qui a vu son père mourir sous ses yeux et qui est trauma et qui fait ce qu'elle peut, mais que toute la famille soit dans cette démarche de... Enfin, tout cet épisode, à chaque fois, j'étais là, mais là, vous avez plus d'excuses au bout d'un moment pour... avoir des réactions qui sont absurdes et... Enfin, j'appelle les flics, peut-être, tu vois. Tyler, il rentre, ou même il y a Body et la gamine, Body, il se transforme en fantôme, il va voir. Donc déjà, j'étais là, ok, bon. Il se transforme en fantôme, il va voir ce qui se passe.
Oui, il va voir ce qui se passe.
Il dit à Kinsey, il y a Sam, il veut les clés, il parle à maman, il a un flingue. Vas-y, on va lui donner les clés, mais pas celle qu'il veut. Donc déjà, j'étais là... Pourquoi tu lui donnes... D'accord.
Non, mais oui.
Elle met la clé dans sa baleine, là. Bon, d'accord. Appelle la police. Il y a un mec avec un flingue. Bonjour, c'est le mec qui a tué mon papa, en fait. Et après, genre, t'appelles les flics. Et après, tu vas le voir et tu temporises. Tu vois, clairement, le mec, il voulait se faire un plat surgelé au micro-ondes. T'as le temps que les flics arrivent. Donc, bon, pourquoi ne... Après, on peut se dire, ils ont 15 et 12 ans, tu vois. Ils ont pas les bons réflexes, peut-être. Mais c'était un peu la cerise sur le gâteau de... J'excusais beaucoup de décisions et de priorités que j'aurais pas mises au bon endroit par le fait que c'est du surnaturel. Là, quand c'est juste un mec en chair et en os avec un flingue, je suis un peu emmerdée. Et après, on peut se demander comment il a eu son flingue et est-ce que avoir une clé lance-flamme, ça suffit vraiment à s'évader d'une prison et tout. Mais ça, j'étais là, d'accord, pourquoi pas. Et une ellipse, on le voit sortir de la prison, pourquoi pas. Mais quand même, au bout d'un moment, il a de la chatte, quoi.
Ouais, il a de la chatte, ouais. Ouais. Mais après, moi, ce qui m'a aussi dérangé dans cette pluralité de personnages, c'est que je trouvais le concept assez marrant, tu vois, le fait d'avoir des clés qui ont des pouvoirs et tout. Et moi, ça me distrayait vachement ces histoires de teen, en fait, tout le temps. Et vouloir mettre des teen partout, en fait, ça commence à me... Je commence à en avoir marre, quoi, de voir des ados toujours... Enfin, les portraits d'ados tout le temps dans toutes les séries. Donc, ouais, ça m'a cassé les pieds et il y avait trop d'infos, quoi. Et en même temps, ça avançait très bizarrement, tu vois. Enfin bon, voilà. Mais après, il y avait quand même des choses intéressantes, je trouvais. Notamment la notion de trouble qui est amenée par Kinsey. Genre, j'étais là, ok, ce serait tellement 2020. Bien s'il y avait un trouble. Forcément, Scott dit non.
Mais bon. Il est pas woke.
Mais il est pas woke, mais ça me saoule, tu vois. Moi, je voudrais des ados woke, à la limite, tu vois. Mais...
Ils peuvent pas tous être woke.
Mais tu vois, il y a des trucs... franchement, il y a des trucs intéressants. Là, bah, comme tu disais, la gestion du deuil chez Tyler, même si je pense qu'en fait, ça aurait pu avoir un double message, même un peu évident, toute cette histoire de clé, tu vois. Je pense qu'il y aurait pu avoir un truc cathartique pour les ados. Et en fait, il n'y en a pas, c'est juste un truc à côté. Enfin, en fait, j'ai l'impression que tout est mis les uns à côté des autres.
Oui, il n'y a pas vraiment de lien entre eux, donc l'histoire familiale, l'histoire du deuil, ouais. Le surnaturel et leurs histoires personnelles de bail de lycéens et
c'est
tout.
C'est ça.
Où au final, c'est très peu corrélé. Mais je pense que tu avais mis le doigt sur quelque chose quand tu disais peut-être que la série va trop vite. Parce qu'au final, si on prend les grandes séries à mystère, comme tu pouvais citer The Leftovers ou Lost, en fait, déjà, c'est des séries qui paraissaient toutes les semaines. Donc tu avais le temps de théoriser, tu avais le temps de te poser des questions, de réfléchir avec tes potes, de tisser des projections. Probablement, tu vas tomber à côté si t'es comme moi, mais c'est pas grave. Et ça faisait partie du plaisir, c'est que à chaque épisode, t'as une nouvelle question et t'es là... Attends les mecs, il y a un ours polaire sur l'île là, qu'est-ce qui se passe? Et en fait là, c'est le problème entre guillemets de la temporalité Netflix, c'est que plus personne ne regarde les séries en même temps et du coup tu peux pas, à part si tu t'organises avec 2-3 potes, tu peux pas être au même moment de la série et théoriser ensemble. Mais aussi la saison ne fait que 10 épisodes, il se passe énormément de choses. Il y a 4 personnages principaux, plus le daron qui est quand même pas mal là, plus les potes de Kinsey, plus les potes un petit peu de Tyler, plus Echo, plus Duncan le tonton, enfin beaucoup de monde. Et en 10 épisodes, t'as pas le temps de creuser. Là où Lost, il y avait plein de mystères, mais ça arrivait progressivement. J'avais 25 épisodes par saison, de 45 minutes. Et en fait, Lost, toute la première saison, c'est on survit sur l'île, peut-être qu'un avion va venir nous chercher. Et il te faut 25 épisodes de 45 minutes pour qu'ils disent attends, il y a autre chose sur l'île. Et c'est intriguant, et peut-être qu'un avion viendra pas nous chercher. Là où Lock and Key, épisode 1, tu vois, il y a des clés mystérieuses. Épisode 10, t'as vu 48 clés, tu sais qui c'est Echo, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie du daron, pourquoi le tonton il a plus souvenir. Enfin, t'as toutes les questions ont des réponses, comme tu disais, et peut-être que ça tient au fait qu'ils ont voulu mettre trop de choses en 10 épisodes, et en même temps, peut-être que s'il y avait eu moins de choses, les gens auraient dit oh, c'est chiant, il se passe rien,
peut-être,
et ça aurait pas été renouvelé.
Mais en fait, c'est en fait pour moi l'élaboration d'un vrai monde comme on a eu dans Harry Potter ou quand on a eu dans toutes ces sphères un peu fantastiques et tout. Pour moi, ça demande du temps, tu vois. Et tu peux pas. En fait, pour moi, c'est bancal dès que ça va trop vite. Toute cette création de monde, même Stranger Things, la première saison, ça, ils avaient beau
être.
Un seul
objectif, c'est retrouver. C'est Mike.
C'est Will qui disait.
Will. Will est dans l'Upside Down. Il faut le retrouver. C'est.
Voilà, il y a un objectif. Et après, bon, au fil des saisons, ça se développe parce qu'on voit les histoires de machin truc et voilà. Mais en fait, là, c'est trop, quoi. Moi, si tu veux, au bout d'un moment, j'y croyais plus et j'avais du tendance à passer parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était le fantastique. Donc, j'avais tendance à passer les moments teens et c'est ça qui m'a un peu. Voilà, qui m'a un peu laissé.
Et après, peut-être que là-dessus, on n'est tout simplement pas la cible et qu'à 15-16 piges, si on avait l'âge des persos, peut-être qu'on kifferait regarder ces moments-là aussi. Mais je suis même pas sûre parce que je pense que, en fait, même quand on aime bien, genre moi dans Harry Potter, j'aimais beaucoup les histoires entre personnages, tu vois, même pas forcément les trucs magiques, les petits bails de qui est-ce que Ron il va inviter au bal, il se rappelle pas qu'Hermione c'est une meuf, moi ça m'intéressait aussi. Là où peut-être que maintenant je dirais bon, ça va, on s'en fout de votre bal de promo, on avance là, il y a les mange-morts qui arrivent. Mais je pense que ça reste un problème de temporalité dans le sens où même si t'as 15 piges, en fait, si on te dit il y a des clés magiques, tu veux savoir c'est quoi le bail des clés magiques. Et si au milieu on te dit, alors attends, Kinsey doit choisir avec qui elle va sortir, t'es là. Non, mais peut-être c'est pas la prio là. Enfin, ils sont quand même extrêmement détentes avec cette histoire de clés magiques. Quand elle ramène la boîte à musique au lycée, j'étais là, mais quoi?
Ouais.
Et elle lui montre direct à son pote, j'étais là, mais.
Et puis surtout,
L'autre il voit et direct il fait,
c'est ça.
Vous l'avez contrôlé par la pensée ou quoi? Je suis là, mais c'est ta première hypothèse, genre. Les gens sont détentes.
Ils sont ultra détentes. Et surtout, moi, tu vois, je leur ai dit bah non. Et puis, ils m'auraient fait ah, ok. Enfin, tu... T'as pas besoin d'argumenter quand il se passe un truc fantastique. L'autre, il va forcément croire l'option la plus...
Ah, mais elle, minute 1, elle fait... Alors oui, mais faut le dire à personne. Je fais... Bon, on va dire que... Mais once again, elle a retiré sa peur, donc elle peut pas avoir peur qu'il la trahisse, etc. Ouais, après, ouais. Est-ce que quand tu t'as plus de peur, t'es un peu conne, peut-être? Parce que c'est
ah, bah,
juste...
Sûrement,
c'est
oui.
un peu bête de le dire au
Mais comme
venu,
dit Tyler, en fait, c'est... En fait, moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait un retournement au niveau de enlever sa peur, tu vois. Parce que, comme disait Tyler, enlever toute une émotion de ton cerveau, c'est quand même ultra grave, tu vois, c'est ultra dangereux et tout. Et en fait, il se passe rien. Genre, elle fait juste des trucs plus random, tu vois. Mais en fait, j'aurais aimé qu'il se passe un vrai truc, que ce soit articulé autour de ça. Et en fait, finalement, ça se retourne sur ces histoires d'amour un peu bizarres. Et puis, et lui, tu vois, il se dit, oh, bah, finalement, comme elle fait n'importe quoi, je vais balancer des livres dans ma tête. Comme ça, je les apprendrai par cœur pour mon date.
Cela dit, c'était un peu marrant, quoi.
Non, mais c'était marrant.
Sais-tu que le métro londonien, et la meuf, elle est là, quoi. C'était un peu marrant.
Non, mais c'était marrant, tu vois. Et franchement, typiquement, genre, c'est un truc que j'aurais pu faire quand j'étais ado. Mais en fait, du coup, ça, y a aucune incidence sur le fait que, bah, elle a enlevé sa peur, tu vois, et que c'est
Je pensais vraiment qu'elle allait se rendre compte qu'il fallait qu'elle la récupère, tu
ouais,
vois, qu'elle
aussi.
Allait faire tout ce chemin de découverte d'elle-même en se disant qu'en fait la peur c'est ça qui te permet de survivre, que c'est ça qui te permet aussi de protéger. Même ça aurait pu être une discussion avec Bodhi où il lui dit bah en fait tu m'as sauvé la vie quand ça m'est venu tuer leur père parce que t'as eu peur et du coup j'ai besoin que t'aies peur parce que c'est ça qui fait que tu nous protèges ou quelque chose, tu vois. Peut-être que ça sera un sujet dans la saison 2, mais j'avoue comme là, elle a libéré sa peur et que sa peur s'est barrée.
Dans les derniers épisodes, elle a réattaqué la meuf la plus populaire.
Ah oui.
Voilà.
Toute une histoire, ça. Mais et après, elle s'est rebarrée.
Et après, elle s'est rebarrée. Et en fait, c'est là qu'on a l'explication où, en fait, sa peur est là pour attaquer toutes les choses dont elle a peur.
Mais ça pourrait être un vrai truc de, du coup, apprivoiser ta peur et en faire une arme. Et c'est peut-être ce qu'ils essayent de dire et peut-être que ça va être développé. Mais
ouais.
Voilà, c'est en fait... La storyline de la peur, je pense qu'on y passe en cumulé 7 minutes sur 10
ouais,
épisodes.
Alors que pour moi, c'est...
Et il y a tellement de storyline que c'est là, mais on... Enfin, il y a tellement de choses à creuser juste autour de ça, tu vois. La saison 1, ça pourrait être... Il y a des clés et Kinsey, elle a voulu tuer sa peur, il faut qu'on la lui retrouve, tu vois. Ça pourrait être ça.
Mm-hmm.
Et essayer de comprendre un peu, à la limite, pourquoi Sam... Quoi, parce que quand Sam tue le daron, il lui dit « Dis-moi ce que tu sais sur Keyhouse ». Et bah, a priori, il n'a aucune raison de savoir ça. Donc, c'est le premier truc intriguant où t'es là.
Eh ouais.
Qu'est-ce qui se passe? Et ça, pour le coup, la résolution est plutôt intéressante. Enfin, le fait que ce soit le démon qui est venu le chercher par la peinture, qui est très Stephen King, pour le coup, dans l'exécution. Mais pour moi, ça marche bien. Mais ça fait trop d'intrigues, quoi, finalement.
Ouais,
et
c'est
peut-être...
Ça.
Là-dessus, qui pourrait se focaliser en saison 2, ça va peut-être être le cas, puisque bah, beaucoup des questions de la saison 1 ont déjà eu des réponses, de juste prendre une ou deux questions, la grande question étant qu'est-ce que c'est ce truc derrière la porte Oméga et qu'est-ce que c'est censé représenter, quoi. Après, si c'est inspiré de Lovecraft, Lovecraft avait tout un... Dans l'œuvre de Lovecraft, il y a toute une histoire de dimensions qui sont à la fois inatteignables et inimaginables pour l'esprit humain, où vivent des entités, des monstres indescriptibles d'une horreur folle. Et du coup, peut-être que c'est ça qu'il y a derrière la porte Oméga, puisque clairement, ce qui en sort n'a pas l'air très sympa.
Bah, plutôt
Mais
pas
si
sympa,
si
oui.
Si passe la saison 2 à essayer de faire en sorte que la meuf, elle se rende compte qu'elle a été contaminée, enfin, touchée, machin, et qu'en fait, Ellie, c'est pas Ellie, c'est le démon et tout. Enfin, je suis un peu fatiguée d'avance, tu vois, je suis là... J'ai envie que ce soit bien. Ça a l'air, c'est vraiment un gros potentiel, quoi,
ouais,
cette histoire.
Ça.
Mais si on repart dans des bite-ins et des, on communique pas et des malentendus, ça va être un petit peu.
Mais petit peu et d'ailleurs, enfin, un des gros potentiels, du coup, c'était moi ce concept des clés. Mais enfin, vraiment, tu vois, je me suis dit ah c'est marrant, tu vois, c'est comme si t'étais un super héros mais que tout le monde pouvait l'être et que du coup c'est
ah bah j'aime trop. Hein.
C'est trop stylé, tu vois, de te dire alors ok la clé de la tête comment ça va être et tout. Enfin,
ouais.
Tu vois, il y a des trucs vraiment intéressants. Sauf que tout repose sur une répétition assez rébarbative en fait du on trouve la clé. On trouve à quoi elle correspond en 2 minutes 30 à peu près.
Ah c'est très évident. Hein.
Et voilà, et ensuite, bah, on l'utilise pour faire n'importe quoi, et ensuite on l'utilise plus jamais. Enfin, parce qu'en fait, moi, dans la bataille finale, donc face au roi des ombres, alors ça, je me dis, les clés, elles sont censées ouvrir des trucs, tu vois. Et là, non, finalement, la dernière clé, c'est tu la fous dans une couronne et ça déclenche des ombres monstrueuses. Et je suis là, quoi ? Mais on s'éloigne trop du sujet, tu vois. Ça devait juste ouvrir des portes.
Restez focus, elle est où la porte ?
Non, mais tu vois, genre, ça n'a aucun sens. Enfin, pour le coup, genre, vraiment, j'étais...
Ah bah, la couronne, je l'avais pas vu venir, hein, clairement.
Bah non, tu peux pas, en fait, voir.
Depuis quand ? Il y a pas un sceptre, un trône,
ouais,
c'est quoi ?
Ouais, c'est ça. Ah. Et du coup, tu deviens le plus puissant et apparemment, il y a aucune autre clé. Alors que moi, tu vois, j'aurais utilisé la boîte pour ouvrir la boîte et dire aux ombres, bah non, vous faites pas ça. Enfin, tu vois, genre, je sais pas qui... Hein.
Non.
Non, mais qu'ils utilisent en fait les clés dans la bataille et c'est ce qui m'agace vraiment beaucoup, moi, dans plein de séries. C'est quand, surtout les séries fantastiques, c'est quand tu découvres des choses qui pourraient t'aider et qu'en fait, ça sert juste à servir l'idéal fantastique et puis que finalement, dans la grande bataille finale, ça sert à rien. Enfin, je sais pas, ça m'agace trop, vraiment. Genre, moi, j'aurais découvert ces clés, mais j'aurais imaginé 1000 scénarios pour la combattre, tu vois. Enfin, là, ils la combattent avec des lampes torches, enfin. Vraiment, enfin, ça me dépasse.
Respectez-vous, je sais pas.
Non, mais ça me dépasse, tu vois. Et j'aurais aimé aussi que, justement, les intrigues sur les relations humaines qu'ils ont sont un peu plus travaillées dans le sens où tu comprends pas tout de suite pourquoi Tyler a l'impression que c'est de sa faute si son père a été tué. Enfin, voilà, ça vient
bon,
plus
ça,
tard.
Pour le coup, tu mets plusieurs épisodes à le comprendre.
C'est ça, tu vois. Tu mets plusieurs épisodes à le comprendre. Alors que les clés, moi, j'aurais trop kiffé qu'ils en trouvent une. Ils trouvent jamais à quoi elles servent, tu vois. Et
à toute fin, il y a un truc genre, ah, oh,
ouais,
c'est ça.
Ça
depuis le début.
Et enfin, je sais pas, que ça dure plusieurs épisodes, qu'ils aient trois clés, qu'ils sachent pas quoi en faire. Enfin, tu vois, il y aurait eu vachement de potentiel, je trouve, à jouer aussi avec la narration et pas faire une narration ultra linéaire et ultra, pas basique, mais presque, quoi.
Oui, parce qu'au final, ils se servent quand même régulièrement des clés, mais ils sont pas si curieux que ça, je trouve, de comment ça marche. Et
ouais.
Tu vois, alors t'as Bowdy qui emprunte une histoire de Madson pour comprendre c'est quoi les Sea Caves, le puits et tout. Mais en fait, son frère, il dit « Oh, fais voir MDR, je vais le jeter dans ma tête. » Et il l'en ressort jamais, donc c'est la fin. Mais enfin, je sais pas, les fouilles. Moi, j'aurais fouillé toute la baraque pour trouver s'il n'y avait pas un journal intime du daron ou un truc.
Ouais.
Attends, mon gars, quand Bowdy devient fantôme la première fois,
ouais.
Donc déjà, j'étais là. Il y a le corps sans vie du gamin au milieu du salon. La daronne, elle va péter un câble. Ce qui arrive d'ailleurs.
Oui.
Enfin, non, c'est son frère, mais j'étais là. Mais pense à ta mère. Enfin, c'est chaud.
Ça se fait pas.
Elle a passé une seule année quand même. Mais bon, il devient fantôme. Il fait oui, je vole. Je suis là. Très détente, cet enfant. Once again, c'est son game. Et il trouve Papy Chamberlain là.
Mais oui.
Mais alors, il revient jamais lui parler.
Mais non, mais
j'étais là. Mais
j'en pouvais plus vraiment. J'étais là. Mais
C'est le truc. Et alors moi je pense que c'est un méchant parce qu'il a une tête de vieux monsieur méchant.
Ah ouais.
Et du coup je pensais qu'il a essayé de l'embrouiller et que genre en fait je pensais que c'était un bail où genre Papy Chamberlain il avait appris à Rendell et Duncan à servir des clés et tout et qu'en fait c'était hyper dangereux et qu'il y avait une tragédie et qu'il leur avait effacé leurs souvenirs ou je sais pas quoi mais qu'en gros c'était un genre de vieux fou un peu en mode le papa dans Umbrella Academy, là. Enfin, un genre de scientifique
fou,
tu vois, qui a été un peu corrompu par la puissance des clés ou je sais pas quoi. On ne saura jamais.
Mais non,
puisque personne ne lui pose la moindre question.
Fou, quand même.
Il a que ça à foutre.
Oui, exactement.
Il a demandé. Vraiment, ça m'a rendu ouf. Et quand Sam devient fantôme, je me suis dit, donc il a vraiment que ça à foutre d'aller traîner avec le vieux Chamberlain et c'est par lui qu'on va avoir les réponses.
Non, mais parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a des questions qui sont posées et il y a plein de questions qui ne sont pas posées. Et c'est ça, je trouve, le plus frustrant.
La première étant, what the fuck?
What the fuck?
Quand même, on a des clés magiques. Inquiétons-nous, non.
Mais après, à la limite, ça rentre un peu dans le côté fantastique romanesque où, tu sais, les gens sont confrontés à des phénomènes fantastiques et finalement, c'est presque pas si bizarre, tu vois. Enfin,
oui,
ça rentre
et c'est aussi
un peu
des
dans
enfants.
Quotidien.
Et du coup, ça rentre dans le cliché, mais je dis pas ça en négatif, juste le trope scénaristique de les enfants sont sensibles à la magie au surnaturel et les adultes non, puisque leur mère, elle oublie immédiatement ce qui s'est passé et Duncan aussi quand il re-regarde un de ses vieux souvenirs et qu'il est là. Quoi ? Hein ? Oh, je vais aider ta mère à cuisiner. Donc, oui, ça peut s'expliquer. Genre, ils sont encore naïfs, ils acceptent la magie telle qu'elle est et ils se demandent pas pourquoi finalement. Donc. Et c'est vrai que la mère, quand elle est reconfrontée à la head key, quand il y a Sam, du coup, quand il y a Sam avec son flingue et Tyler, il utilise la head key sur la tête de Sam pour l'immobiliser. Bah là, la daronne, elle vrille. Elle est vraiment en mode, qu'est-ce qui... Quoi ? Il a une clé dans la tête, c'est qui lui ? Pourquoi c'est lui aussi ? Il y a une porte, qu'est-ce qui ? Là, là, là. Donc là, j'étais là, ok, réaction normale.
Ouais.
Ah, il a une clé dans la tête et ça lui a fait un double et il y a une porte. Enfin, quand même, inquiétons-nous, tu vois. Ou là, mais... Enfin, je sais pas. Je suis vraiment...
Il y a toute cette dimension de la mère, tu vois, qui... Donc, on découvre qu'elle a un passé d'alcoolique.
Ce que j'ai trouvé intéressant,
pour le coup. Hyper intéressant. Mais t'as quand même cette discussion lunaire des enfants qui disent « Est-ce qu'on la laisse continuer de boire ?» Comme ça, elle comprendra ce qu'on vit.
Bah, en gros, ça altère... je pense que c'est cette idée que ça altère la façon dont tu t'accroches à la réalité. Ça te désinhibe et du coup, ça te rend plus à même d'ouvrir ton esprit à d'autres potentialités,
okay,
n'est-ce pas ?
Bon, bah.
Ce n'est pas un conseil santé. Voilà. Mais oui, ce qui m'attriste, c'est que je pense que les... Je suis pas sûre qu'on puisse donner une réponse satisfaisante aux questions principales qui sont c'est quoi l'histoire de cette maison ? C'est quoi cette porte ? Est-ce que les gens qui ont construit cette maison savaient qu'il y avait ce terreau qui était du coup les caves avec la porte Oméga, etc. Il y a un côté un peu maison construite sur un cimetière indien, quoi. Tu te dis, bon, il y avait d'abord l'entrée, puis la maison au-dessus. Et peut-être que c'est des questions tellement vastes que toute réponse sera forcément décevante. Et encore une fois, la référence à Lovecraft, elle marche parce que Lovecraft, c'est quand même, sans nier son talent, mais sans nier non plus son racisme, un mec qui a quand même fait son bise sur le fait d'écrire « Oh là là, ce monstre, je ne peux vous le décrire. Il est si horrible. » T'es là, c'est un peu ton boulot d'auteur quand même de décrire des trucs, non ? Non, ça je ne peux pas.
Non.
Et du coup, ça marche parce que c'est toujours pire dans ta tête que si on peut représenter en vrai. Et c'est le gros problème des adaptations de ce type d'univers à la Lovecraft, dont Stephen King en a écrit une partie de bouquins dans ce style-là. C'est quand tu les vois en vrai, t'es là « Ah !» C'est-à-dire c'est une grosse araignée, quoi. Je connais, c'est moins bien que dans ma tête.
Ouais.
Et du coup, est-ce qu'on peut avoir une vraie réponse satisfaisante à qu'est-ce qu'il y a derrière la Oméga d'or pour de vrai, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce qu'il y a comme entité, d'où vient la maison ? Peut-être que, peu importe la réponse, on sera là. Oui, bon, d'accord. Il y a un jour, un ancêtre loque peut-être qui est tombé là-dessus et qui s'est dit je vais construire une maison pour enquêter sur cette porte et après, mais bon. Peut-être que si on demandait à Papy Chamberlain,
peut-être qu'il saurait quelques trucs, voilà.
Ouais, ouais,
mais
ouais.
C'est peut-être après, c'est peut-être juste des pierres posées pour la saison 2, et c'est peut-être juste ça, tu vois.
Mais... c'est tout ce que j'espère en vrai, parce que certes, je n'ai pas tout regardé, mais je sais comment ça finit, et peut-être que je regarderai les 3 derniers d'ailleurs, maintenant que je sais à quoi m'attendre. Et en vrai, si la saison 2 transforme l'essai et arrive à se refocaliser sur seulement quelques points importants sans s'éparpiller, il y a du vrai potentiel pour en faire une bonne série, quoi.
Après, le seul problème, c'est que pour moi, ça joue... C'est la même chose que Stranger Things dans les dernières saisons, où c'est... On prend la même chose, on prend exactement la même intrigue et on refait exactement la même chose. C'est-à-dire que...
Ils n'ont pas trouvé 18 nouvelles clés, quand même, j'espère.
Non, mais à la fin, quand même, donc la fille a été tirée, donc il y a un nouveau démon dans la bande, quoi. Donc ça va encore être l'histoire de comment ils vont faire pour rester anonymes le plus longtemps possible. Enfin, j'ai presque l'impression de voir ce qui va arriver, donc j'aimerais que ça me surprenne et que, en fait...
Oui, on peut espérer une forme d'audace un peu à la The Good Place, où en fait, saison 2, épisode 1, c'est bon, ils ont identifié le démon, ils l'ont buté.
Et du coup, c'est ça.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
Qu'est-ce qu'on fait,
Parce que The Good Place, c'était connu pour... ok, on change complètement de paradigme, nouvelle storyline, et 2 épisodes après, c'est bon, on a fini, on rechange. T'es là, attends, ça aurait pu faire 4 saisons quand même, là, votre histoire, mais c'est ce qui permettait au truc de pas trop s'essouffler. Et je pense... que tu as raison dans tes pronostics et qu'on va probablement avoir toute une saison autour de « ils savent pas que c'est un démon parmi eux » et tout. Mais si vous écoutez sur le popcorn Joe Hill et les gens de chez Netflix, n'hésitez pas à régler cette affaire en un épisode ou deux. Et puis comme ça, après, on sera en terrain inconnu. Et c'est quand même
ça.
Le mieux.
Exactement. Et est-ce que tu as une clé préférée, toi ?
La clé Anywhere Key. Clé pour aller partout.
Mais moi, tu sais qu'elle m'a agacée, cette clé, parce que j'étais là... En fait, j'aime bien les pouvoirs magiques, mais qui ont des limites. Donc, par exemple, j'aimais bien le fait qu'en fait, il fallait avoir vu la porte pour y aller. Et en fait, ils utilisent Google Maps, c'est con.
Non, mais c'est super marrant.
Oui, c'est marrant,
tu vois,
mais du coup, il n'y a plus... Mais oui, c'est hyper malin. Mais en fait, pour moi, il fallait être allé sur les lieux, quoi, pour pouvoir y aller. Et là, du coup, en fait, le pouvoir est plus du tout limité. Et donc, en fait, l'écho Dodge devient toute puissante. Enfin,
oui,
en fait, j'aime pas
la clé qui lui permet d'aller partout. Bon, en fait, moi, ça me dérange pas cette toute-puissance parce qu'elle est vraiment liée à un objet et on voit que quand elle se fait tirer la clé par Tyler, elle est à pied, quoi, la meuf. Enfin, vraiment, sa vie, c'est nul. Donc, je trouve ça intéressant, une toute-puissance qui est aussi faillible que ça. Il y a un vrai côté talon d'Achille où, oui, elle est toute-puissante tant qu'elle a cette clé et au moment où elle l'a plus, bah, alors, elle est quand même déterre, hein, on va pas. J'aimerais pas me retrouver avec elle dans une ruelle, mais elle est quand même, elle a pas de pouvoir intrinsèque à elle-même. Et en fait, moi, je trouve ça marrant le côté « Oh, le pouvoir a des restrictions et tout. » Bah, Google Maps, ouais, je lui apporte. C'est trop malin. Et en fait, moi, mon super pouvoir préféré, ça a toujours été la téléportation. Peut-être ouais, parce que je suis une feignasse. Et du coup, je me souviens que dans X-Men, il y a ce truc de... donc, il y a Diablo qui est tout bleu, là, qui se téléporte dans le X-Men 2, je crois. Et il y a un vrai truc de, il peut se téléporter que dans un endroit qu'il a déjà visité, sinon il risque de se téléporter dans un mur ou, tu vois, enfin, de mourir, quoi. Et en fait, c'est hyper marrant d'imaginer, OK Google, opéra de Sydney intérieur. Voilà, je l'ai vu, je vais aller là. C'est trop bien. Et au moins, ça rafraîchit un peu un pouvoir qui est vieux comme le monde, qui est celui d'aller partout. Après, il y a vraiment très peu, en fait, ils expliquent pas comment ça marche le truc de, enfin, du coup, bah, même au tout début, quand Bodhi l'utilise, il va chercher une glace, ouais. Petit enfant au cœur pur. Il y a vraiment personne qui... Tu vois, il n'y a pas ce côté genre... Ok, donc t'es arrivé dans un endroit où t'étais pas dehors. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une personne qui essaye de rentrer dans le magasin de glace en même temps. Enfin, tu vois, t'as pas des... Mais après, je sais que j'ai un côté un peu nerd avec les pouvoirs où je suis là. Je veux, quand je suis comme toi, tu vois, je suis là. Je veux des limites précises. Je veux un manuel. Je veux des règles parce que je suis chiante dans la vie.
Mais à un moment, si quand Echo va visiter dans l'hôpital psychiatrique, au moment où elle sort, Kinsey rentre par la vraie porte et elle sort par la fausse porte. Mmh. Et du coup, en fait, elles se croisent et ça fait une scène assez stylée où elles se croisent vraiment, où la porte se referme et basta, tu vois. Enfin, du coup, elles se sont pas croisées.
Ben, je retire ce que j'ai dit, c'est géré. Voilà. Mais oui, la Anywhere Key, c'est sûr. Mais en plus, parce que je trouve que c'est la moins flippante de très loin. La Head Key, jamais de la vie.
Ah, mais moi, elle m'intrigue trop, la Head Key.
Tu tirais dans ta tête, toi?
Bah, en fait, j'inviterais personne, mais alors mais personne!
La meuf, elle invite son frère et tout, elle invite son... Tu sais, son... C'est même pas encore son plan cul, elle l'a même pas encore pécho. Elle est là, viens dans ma tête, on va voir les souvenirs de mon papa mort. Je suis là, mais tu veux le pécho ou pas un jour dans ta vie? Once again, elle a tué sa peur, voilà, voilà.
Voilà.
Bon, quand même.
Non, mais oui. Mais moi, je me suis demandé... Waouh. Ok, à quoi ressemblerait ma tête? Parce que tu sais, ils ont tous des trucs bizarres. Où genre,
Elle est bien deck d'avoir un centre commercial.
Ouais, elle est là. Putain, moi j'ai un putain de centre commercial de merde.
Je serais deck aussi. J'ai un flunch.
Moi je serais trop contente si j'avais un flunch en vrai.
Parce qu'elle est frite à volonté.
Parce qu'elle est frite à volonté. La flunch vie, on l'appelle.
Flunch, si vous voulez sponsoriser sur le popcorn, n'hésitez pas. Non, tu penses que ça ressemblerait à quoi chez toi? Dans ta tête?
Je sais pas. J'ai vraiment, vraiment, j'ai essayé de m'imaginer et je ne savais pas, tu sais, j'avais pas de réponse. J'étais là, dans quoi je rangerais mes souvenirs? Moi, ça doit être le bordel. Ça doit être un peu comme la tête de celle qui est dans l'hôpital psychiatrique avec genre des cassettes dans tous les sens, tu vois. Moi, ce serait genre des DVD, j'en sais rien.
Faut ranger, madame, hein. Faut dépoussiérer et tout ça. Non, après, la face key, bon, tout ce qui est modification corporelle, ça m'a jamais trop tenté comme pouvoir, tu vois. Même Mystique et tout, je suis là, ah, c'est compliqué. Enfin, Mystique dans X-Men qui, du coup, se métamorphose en qui
et elle puis, veut. Pareil, moi, pour moi, il n'y a pas assez de limites à ce... Il n'y a pas assez de limites à ce pouvoir. Genre, elle peut vraiment se transformer en n'importe qui et même s'inventer une tête. Et genre, je suis là,
ah, trop si facile. Je le ferais pour devenir un gars et aller ken une meuf. Ou juste devenir un gars... Et me branler un petit coup pour savoir ce que ça fait, tu vois, parce que ça change tout ton corps. Du coup, je pourrais faire le vieux truc de « j'aimerais bien passer une journée dans la peau d'un mec pour voir, tu vois. »
Mais tu sais, c'est dans Misfits qui fait ça.
Oui.
Et qui tombe enceinte de lui-même. Cette série est géniale, ouais.
Et ben, en vrai, Misfits, c'est un bon exemple de ce que Lock and Key aurait pu être avec un peu plus d'irrévérence et un peu plus de temps accordé au personnage. Parce que pareil, Misfits, t'as pas non plus 14 000 intrigues dans la première saison, dans mon souvenir. Et t'as ce vrai côté où les personnages réagissent très très bien au fait d'avoir des super pouvoirs. Clairement, ils sont détentes très vite, mais déjà ils sont plus attachants. On va pas se mentir parce que c'est des petits Britanniques insupportables et ça c'est cool. Et bah je sais pas, ça, je sais pas ce qui fait que Misfits marche là où Lock and Key échoue un petit peu, mais je pense que ça se joue dans un équilibre entre la partie surnaturelle, la partie un peu fun où ils deviennent potes et ils apprennent à se connaître, ils essayent de pécho et tout, enfin qui est quand même très présente aussi dans Misfits. Et le mystère plus global qui est... Enfin, ils sont clairement... Il y a des gens à leur trousse, on sait pas qui c'est et tout. Mais je pense que ça tient au temps alloué à en fait laisser l'histoire se dérouler, te laisser faire connaissance avec les personnages et tout, avant de te balancer direct. Ok, le daron, la daronne, lui qui l'a tué, il lui a dit Key House, il y a des tatouages, il y a une meuf dans le puits, il y a des clés, mais il y a aussi machin. Elle aime bien le petit gars qui fait des faux films d'horreur chez lui, tu as repéré. On va y revenir et t'es là. Ok.
D'accord. Non, okay, non, d'accord. C'est trop. Mais du coup, t'aimerais que, pour terminer, que ça se concentre sur quoi en saison 2
Ah bah moi, je suis team secret de famille. Je veux savoir l'histoire de Key House. C'est ça que je veux savoir. C'est vraiment, si en saison 2, on voit plus jamais ni les enfants, ni la daronne, ni quoi, et que c'est juste Sam et le grand-père fantôme assis sur une tombe qui discutent pendant 10 heures, moi, je signe, tu vois. Je veux vraiment... J'aime bien les mystères et j'aime bien les... J'ai un vrai kink sur cette maison. Je l'aime trop. Et j'ai un vrai truc, j'aime trop les grandes vieilles maisons où t'as l'impression que à chaque placard, tu vas trouver un truc, un secret, un machin. Je me souviens, mes grands-parents, ils avaient une vieille baraque en Alsace et des fois, juste on se baladait dans le grenier avec mes sœurs, on trouvait des vieux jeux de société, des trucs comme ça. On était là, oh, j'ai un trésor,
tu vois. Moi, je comprends trop, mais genre vraiment, moi, pareil, j'explorais la maison de mes arrière-grands-parents et mes grands-parents en Bretagne. Et donc, on construisait des maisons dans le grenier. Où on trouvait plein de vieux meubles et tout, donc on faisait vraiment notre maison, tu vois, on faisait genre, on emménageait là, c'était notre appart, tu vois, et on trouvait des trucs, et par exemple, je me souviens, on avait trouvé dans la cour, c'était une capsule de canette, enfin une capsule de bière, et on avait été voir ma mère, on avait fait, maman, regarde, c'est une canette de 1664, c'est si vieux.
Oh non, la pureté.
Mais donc, tu vois, quand t'es petit, enfin, je comprends, tu vois, quand t'arrives dans des grandes maisons comme ça, t'as envie de tout explorer. Et moi, c'est vraiment, j'ai envie qu'ils trouvent toutes les clés du monde, tu vois, et qu'il y ait des clés improbables, même qui servent à rien, tu vois, ou qui servent à des trucs de merde.
Parce que c'est la clé de la pluie. Ouais, il pleut. C'était très utile. C'était un temps, maintenant, bof.
Mais c'est ça, tu vois, et moi, j'adore ce concept de clé, tu vois, parce que je sais que j'aurais tellement kiffé en trouver. Oh là là, je me serais tellement imaginé plein de trucs. Donc, ouais, je suis d'accord pour que. On explore un peu cette maison dans la saison 2 et qu'on se calme un peu sur les ardeurs d'adolescents. Enfin, je trouve qu'il y a plein d'autres séries pour se concentrer là-dessus. Donc,
Regardez Sex Education. Regardez plein d'ardeurs d'adolescents et d'adultes. Et concentrons-nous un petit peu sur l'essentiel.
Voilà, exactement.
Voilà.
Non, mais de créer un vrai monde, en fait, et de prendre son temps de créer un vrai quelque chose, tu vois.
Mais du coup... Ce pourquoi je remercie la série, c'est que je pense qu'elle m'a donné le déclic qui me manquait pour lire les comics. Donc je vais aller lire les comics Lock and Key. Si quelqu'un veut me les prêter à Paris, laisse un commentaire à cet épisode. Et sinon, je vais les acheter avec mon argent, durement gagné en faisant des podcasts. Et j'ai hâte de voir les différences et j'espère que les comics vont aller plus en profondeur sur le lore. Donc voilà, les mystères, l'historique de cette famille, de cette maison, de ses pouvoirs et un peu moins, je pense, sur... Est-ce qu'on fait un troupe ou pas? C'est une bonne question.
C'est une bonne question. Bah, merci beaucoup, Mimi.
Merci à toi, Alix.
C'était vraiment super.
Oui, je suis contente d'avoir fait ce podcast.
Et bah, n'hésitez pas à regarder Lock and Key pour nous donner votre avis, vous aussi, sur la série. Enfin, sûrement, vous l'avez déjà regardé puisque vous avez écouté ce podcast. Mais voilà.
Ah bah, sinon, ça a dû être confus.
Mais venez nous donner votre avis dans les commentaires d'Apple Podcast, en nous laissant bien sûr 5 étoiles, hein, oui. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous, parce que bah, voilà, c'est ce qui marche finalement. Et puis bah, voilà, on se revoit la prochaine fois pour
un prochain film. Est-ce qu'on dit c'est quoi le film de mars pour que les gens ils soient sûrs de l'avoir vu et tout, ils se chauffent?
Bah, je pense que tout le monde l'aura vu, Mimi, hein, vu ce que c'est notre film de mars, ça va être incroyable, j'ai trop hâte.
Oui.
Donc le film de mars, ce sera Mulan.
Oui. La version live action de Mulan qui sort en mars.
Voilà,
c'est je disais de la date. Donc qui sort en mars et que j'ai très hâte de voir. Du coup, il y aura un épisode de Sors le Popcorn, bien sûr, dédié à Mulan.
Voilà, j'ai trop hâte.
Moi aussi.
Et en attendant, bah à bientôt.
Salut.
Ciao.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.